Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 98, Daf Tzadik Het. Bonne écoute et bon limoud.
Ikad nafkaleh meacha, l'yuna qu'il apprenne d'ici, donc du pasouk dans Vaikrazaïn, de cette juxtaposition à la mincha, l'offrande à base de farine, que le korban shlamim offert par le public à Shavuot ne sera consommé que par des kohanim mâles. Veikad nafkaleh meacha, et il y en a qui l'apprennent d'ici, donc du pasouk dans Bamidbar Yutret, comme nous l'avons vu précédemment.
Nous noterons qu'on ne peut pas apprendre du korban chatat ou du korban hacham que le korban shlamim offert à Shavuot par le public serait consommé uniquement par des kohanim mâles, car finalement ces sacrifices sont aussi mentionnés dans ce pasouk. Cependant, puisque concernant cette prescription que les kohanim mâles mangeraient le korban chatat et le korban hacham, le pasouk conclut en disant que ce sont des sacrifices d'une sainteté suprême. En effet, il conclut Kodesh Kodashim Hu. Il se peut que cette expression aurait pu exprimer une exclusion, ce qui aurait exclu donc le korban shlamim public. Et le fait que le korban chatat ou le korban hacham sont mentionnés dans le pasouk, c'est pour nous enseigner autre chose. C'est pour cela que nous l'apprenons de la mincha, donc de l'offrande à base de farine, mentionnée aussi dans ce pasouk. Lorsque le pasouk dit « chatat », donc elle mentionne aussi le korban chatat, ceci pour nous apprendre la chose suivante. Nous lisons selon la Shita Mekoubetset « Ma chatat mekadeshet bevilua » de même que le korban chatat sanctifie, donc transmet son état de sainteté à ce qui en a absorbé, comme nous l'avons expliqué précédemment, « Afkol », ainsi tous les sacrifices « Mekadeshet Bebiloua » transmet son état de sainteté à ce qui en a absorbé, qu'il s'agisse d'une nourriture profane ou d'un sacrifice. Et ce, comme nous l'avons expliqué précédemment. Donc finalement, nous voyons dans ce pasouk, dans cet enseignement, que cette loi selon laquelle l'état de sainteté d'un sacrifice se transmet à la nourriture qui en a absorbé ne s'applique pas seulement pour le korban chatat, mais aussi pour tous les autres sacrifices. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Zvachim Daf Tzadezaïn. Nous commençons le shiur de Maseret Zvachim Daf Tzadechet au milieu de la troisième ligne du haut de la page. La Gemara est en train de rapporter l'interprétation de Shmuel au nom de Rabbi Elazar sur le pasouk dans Vaikra Zaïn qui juxtapose plusieurs sacrifices, donc dans le même pasouk. Le pasouk dit « Voici la loi concernant le korban ola ». Le korban mincha, donc c'est l'offrande à base de farine, le korban chatat, le korban hacham, les sacrifices offerts à l'occasion de l'inauguration. Il s'agit de l'inauguration du Mishkan qui a été construit dans le désert. Et puis pour le korban shlamim, selon l'interprétation de Shmuel, chacun de ces sacrifices va nous enseigner au moins une loi qui sera étendue à d'autres sacrifices. Alors du korban ola, nous apprenons que pour sacrifier un sacrifice, il faut impérativement un ustensile de service, donc un couteau, et non pas un simple morceau de pierre aiguisé ou de roseau aiguisé. De la mincha, de l'offrande à base de farine, nous apprenons que le korban shlamim offert par le public à l'occasion de Shavuot, lorsqu'on offre les deux pains spéciaux, sera consommé impérativement par des kohanim mâles. Du korban chatat, nous apprenons que le sacrifice transmet son état, quel qu'il soit, à l'aliment qui en a absorbé. Donc s'il s'agit d'un sacrifice valable, cet aliment en question aura le même statut que ce sacrifice et devra être consommé dans les mêmes temps. Et s'il s'agit d'un sacrifice invalidé, il sera interdit d'en consommer, de même que le sacrifice invalidé. Comme nous l'avons expliqué dans le daf précédent, nous apprenons de là un principe qui ne s'applique que pour les sacrifices, selon lequel un aliment permis peut s'associer avec un aliment, donc avec le sacrifice, pour compléter la quantité nécessaire pour transgresser une interdiction s'il s'agit d'un sacrifice invalidé. Donc si on enduit un aliment quelconque ou même un autre sacrifice avec de la graisse provenant d'un sacrifice invalidé, donc cet aliment en question a absorbé un petit peu du premier sacrifice, l'aliment en question s'associe avec cette graisse pour compléter la quantité nécessaire de la taille d'une olive pour transgresser l'interdiction d'avoir consommé un sacrifice invalidé. La Gemara poursuit. Hacham, du Korban Hacham, nous apprenons la chose suivante. Ma Hacham, de même qu'en ce qui concerne le Korban Hacham, En Shapir ve Shilia Kadoshbo, un petit qui se trouverait dans le ventre de l'animal et la poche qui l'entoure, ne sont pas sacrés chez lui. En effet, le Korban Hacham ne peut être qu'un mâle. Donc finalement, les graisses d'un petit qu'on trouverait dans le ventre de ce sacrifice ne seraient jamais offertes sur l'autel pour être brûlées. Avkol, ainsi tout autre sacrifice, En Shapir Veshilia Kadoshbo, un petit qu'on trouverait dans le ventre du sacrifice et la poche qui l'entoure, ne sont pas sacrés. Donc les graisses provenant de ce petit ne seraient jamais offertes sur l'autel. Donc finalement, comme l'explique le Chafetz Chaim dans l'Ikuta Halachot, un petit qu'on trouverait dans un sacrifice qu'on aurait sacrifié n'a aucune sainteté. Qu'à savoir, Shmuel pense, Vladot Kodashim Beheviatam Kedoshim ne sont sacrés que lorsqu'ils naissent. Mais avant leur naissance, ils n'ont aucune sainteté. La Gemara précise, Vedanin Efshar Mishei Efshar, et selon Shmuel, nous pouvons apprendre une loi concernant un cas qui est possible d'un autre cas où ce cas serait impossible. Car finalement, cette question, si le petit d'un sacrifice a une sainteté avant sa naissance, ne peut pas se poser concernant un Korban Hacham. Nous noterons que nous avons besoin d'apprendre cette loi du Korban Hacham et on ne peut pas l'apprendre du Korban Ola, qui lui aussi ne peut être qu'un mâle, car en ce qui concerne ce qui est offert sur l'autel, les sacrifices ne ressemblent pas au Korban Ola, qui lui est entièrement brûlé sur l'autel, tandis qu'en ce qui concerne les autres sacrifices, seules leurs graisses sont offertes pour être brûlées sur l'autel, et donc ils ressemblent plus au Korban Hacham. Miluim, des sacrifices de l'inauguration, nous apprenons la chose suivante. Ma Miluim Motrehem Bisrefa, de même qu'en ce qui concerne les sacrifices offerts à l'occasion de l'inauguration du Mishkan, leur reste, donc ce qui est resté des sacrifices après le moment prévu pour leur consommation, était destiné à être brûlé, comme le Passouk le dit clairement dans Shemot Kaftet et dans Vaikrachet, Ve'en Ba'alechaim Bemotrehem. Et en ce qui concerne le reste, il n'y avait pas d'être vivant, c'est-à-dire il ne pouvait y avoir que de la viande du sacrifice ou du pain par exemple, de ces sacrifices qui sont restés après le moment prévu pour leur consommation, mais aucun être vivant, donc aucun animal. Car pour ces sacrifices qui ont été offerts à l'occasion de l'inauguration de Mishkan, étant donné qu'ils ont été offerts par le public, il n'y a pas eu d'autre animal qui a été désigné comme sacrifice de remplacement si un de ces sacrifices venait à s'égarer. Donc finalement, aucun être vivant n'a été brûlé dans ces conditions. Afkol, ainsi pour tous les sacrifices, motrehen bisrefa, ce qui reste des sacrifices après le moment prévu par la Torah pour leur consommation, sont destinés à être brûlés. Ve'en ba'alei chayim bemotrehem, il n'y a pas de possibilité d'être vivant pour leur reste. Donc si une personne qui avait l'obligation d'offrir un sacrifice a désigné un animal pour être le remplacement de ce sacrifice s'il venait à se perdre, lorsqu'il a offert le deuxième n'est pas destiné à être brûlé, mais plutôt, il sera destiné lui-même à être offert comme sacrifice. Donc par exemple, s'il s'agit d'un Korban Ola, l'animal de remplacement sera offert comme Korban Ola. S'il s'agit d'un Korban Khatat, qui a été désigné comme sacrifice de remplacement en même temps que le premier, on le laissera paître jusqu'à ce qu'il devienne infirme, et on vendra cet animal. Avec le produit de la vente, on offrira un Korban Ola. S'il s'agit d'un Korban Shlamim, il sera offert comme Korban Shlamim, etc. Shlamim, du Korban Shlamim, nous apprenons la loi suivante. Ma Shlamim Mefaglim Umitpaglim. De même que le Korban Shlamim, lorsqu'il est invalidé par l'intention invalidante du Kohen, qu'il serait offert après le moment prévu par la Torah pour le faire, même les libations qui l'accompagnent sont invalidées, ont aussi le statut de Pigoul. Et le Korban Shlamim lui-même peut recevoir le statut de Pigoul, donc peut être invalidé par l'intention invalidante du Kohen. Afkol, ainsi tous les autres sacrifices, Mefaglim ou Mitpaglim, s'ils sont invalidés par l'intention invalidante du Kohen, les libations qui l'accompagnent sont aussi invalidées, ont aussi le statut de Pigoul, et eux-mêmes peuvent avoir le statut de Pigoul, donc peuvent être invalidés par l'intention invalidante du Kohen. C'est donc ainsi qu'a interprété Shmuel, au nom de Rabbi Lazar, ce passouk dans Vaikra Zayin.
Bematnita Tana, dans une braïta, il est enseigné Mishmeh de Rabbi Akiva, au nom de Rabbi Akiva. Il interprète le pasouk de la manière suivante. Mincha, de l'offrande à base de farine, il apprend la chose suivante. Ma mincha, nous lisons selon la Shita Mukubetset, Mekadesh et Bebiloua, sanctifie, donc transmet son état, quel qu'il soit, à l'aliment qui en a absorbé. En effet, le pasouk dit dans Vaikravav, concernant la mincha, donc l'offrande à base de farine, Kolachar Yigabahem Igdash, tout ce qui le touche, donc tout ce qui en absorbe, sera sanctifié, donc comme cette offrande à base de farine. Afkol, ainsi, en ce qui concerne tous les autres sacrifices, Mekadesh et Bebiloua, ils transmettent leur état, quel qu'il soit, à tout ce qui en a absorbé. Veitztarich le mirtav mincha, et le pasouk a eu besoin d'enseigner cette loi concernant l'offrande à base de farine. Veitztarich le mirtav chatat, et le pasouk a aussi eu besoin d'enseigner cette loi concernant le korban chatat. Dei hashmeinan mincha, car si le pasouk ne nous avait enseigné cette loi que concernant l'offrande à base de farine, on aurait compris que le pasouk s'interprète dans les deux sens, c'est-à-dire soit l'aliment qui a absorbé un peu de l'offrande à base de farine, soit c'est l'offrande à base de farine qui a absorbé d'un autre sacrifice. Et on aurait dit donc que cette loi ne s'applique que pour un aliment à base de farine, de haïde, de rekicha mivlea, étant donné que la farine, donc l'offrande à base de farine est molle, elle absorbe beaucoup plus les aliments avec lesquels elle vient en contact. On aurait dit donc que seul l'aliment à base de farine absorbe suffisamment du sacrifice ou de l'offrande à base de farine avec laquelle elle est venue en contact pour qu'on puisse appliquer cette loi selon laquelle même l'aliment permis s'associe avec l'aliment interdit pour compléter la quantité nécessaire pour avoir transgressé une interdiction comme nous l'avons expliqué à Bal Khatat. Mais s'il s'agit d'un korban khatat, donc s'il s'agit de viande, et malo, on aurait dit que non, que cette loi ne s'applique pas, étant donné qu'il est possible que la viande ne s'imprègne pas tellement de l'aliment avec lequel elle est venue en contact. Et si le pasouk avait enseigné cette loi uniquement concernant le korban khatat, on aurait dit que cette loi ne s'applique que pour le korban khatat, donc uniquement la viande qui a été en contact avec un sacrifice est concernée par cette loi, et cela mishum de karid, car la viande a cette propriété de s'imprégner de l'aliment avec lequel elle est venue en contact. Donc là aussi, on aurait dit que le pasouk est à deux sens. Donc c'est soit le korban khatat qui est absorbé d'un autre sacrifice, soit un autre aliment qui ressemble au korban khatat, donc de la viande, qui est absorbé du korban khatat, donc seront sanctifiés comme lui. C'est-à-dire donc, comme nous l'avons dit, ce principe selon lequel l'aliment permis s'associe avec l'aliment interdit pour compléter la quantité nécessaire pour avoir transgressé une interdiction ne s'applique que pour la viande. Aval mincha, mais en ce qui concerne une offrande à base de farine, donc un aliment à base de farine, qui n'a pas cette propriété de s'imprégner fortement de l'aliment avec lequel il est venu en contact, et malo, on aurait dit que non, que cette loi ne s'applique pas. Tzricha, c'est pour cela que nous avons besoin de ces deux psukim, à la fois concernant l'offrande à base de farine et concernant le korban khatat, pour dire que cette loi s'applique pour tout type d'aliment qui est venu en contact et qui est absorbé donc de n'importe quel sacrifice. Khatat, du korban khatat, nous apprenons la chose suivante. Ma khatat enaba'a elaminachulin. De même que le korban khatat ne peut provenir que du profane, c'est-à-dire on ne peut que choisir un animal qui n'est pas désigné comme sacrifice. La Gemara dira plus loin d'où nous l'apprenons, ou Bayom, et ce sacrifice ne peut être offert que pendant la journée, comme le pasouk dit dans Vaikra Tetzain, ki Bayom Hazei Yechaper Alechem, ce jour-ci, Akadosh Baruch Hu expira vos péchés, donc par l'offrande des sacrifices qui ne seront offerts que pendant la journée, il s'agit des Korban Khatat offerts spécialement à l'occasion de Yom Kippour, ou Beado Yemanit, et le Kohen qui effectue le service de l'offrande de ce sacrifice ne peut utiliser que sa main droite. Nous verrons par la suite d'où nous l'apprenons. Afkol, ainsi, en ce qui concerne tous les autres sacrifices, et Naba'a et Laminachulin ne peuvent provenir que du profane, donc on ne peut choisir qu'un animal profane qui n'a pas été désigné auparavant comme sacrifice, ou Bayom, et ces sacrifices ne peuvent être offerts que pendant la journée, ou Beado Emanit, et le Kohen, qui effectue l'offrande de ce sacrifice, ne peut utiliser que sa main droite. Alors la Gemara demande, Bechatat Menalan, D'où sait-on que le korban khatat ne peut provenir que du profane? L'agma répond, Amar Rav Chisda, Amar Kra, le pasuk dit dans Vaikra Tetzain, concernant les sacrifices spéciaux offerts à Yom Kippour, le pasuk dit, Vehikriv Aharon et par hachatat asherlo, Aharon, donc le Kohen Gadol, offrira le taureau désigné comme korban khatat qui lui appartenait. Cette expression asherlo est en plus pour nous enseigner que Michelo, ce sacrifice doit provenir de lui, donc de sa poche. C'est le Kohen Gadol qui doit lui-même financer l'achat de ce taureau qu'il doit offrir comme korban khatat, velo Michel Tzibour, et il ne peut pas provenir du public, velo Michel Maaser, et ni de la dîme des animaux. Donc nous voyons qu'on ne peut pas choisir comme sacrifice, donc pour ce korban khatat, un animal qui avait été désigné comme sacrifice auparavant. Bayom, en ce qui concerne le fait que le sacrifice ne peut être offert que pendant la journée, mi bayom tzavotonavka, nous l'apprenons du pasouk dans Vaikra Zayin, qui est à la suite du pasouk que nous sommes en train d'interpréter. Le pasouk dit, le jour où il a ordonné d'offrir des sacrifices. De ce pasouk, nous apprenons que les sacrifices ne peuvent être offerts que pendant la journée. Puisque ce pasouk, donc cette prescription, s'applique à tous les sacrifices, pourquoi doit-on l'apprendre du korban khatat? L'agma répond, Kedin Asba, cette précision donc que nous l'apprenons du korban khatat a été rapportée pour rien. C'est-à-dire, il est vrai que cette loi s'applique pour tous les sacrifices, donc ce n'est pas faux, mais le fait que nous l'apprenons du korban khatat a été effectivement rapporté dans cette braïta inutilement. Be'ado Aymanit, le fait que le Kohen ne peut utiliser que sa main droite pour l'offrande des sacrifices, nous l'apprenons, comme nous l'avons vu, du korban khatat. La Gemara demande, mi de Rabba Barbar Chana Nafka, nous l'apprenons déjà de l'enseignement de Rabba Barbar Chana, d'Amar Rabba Barbar Chana, Amar Resh Lakish, Kol Makom Shenemar Etzba Ukeuna, partout où le pasouk emploie concernant l'offrande des sacrifices, soit le terme de doigt, soit le terme de Kohen, Eno Elayemin, il ne s'agit que de la main droite, donc pour ce type de service dont parle le pasouk, le Kohen ne peut employer que sa main droite. Et comme concernant l'offrande de tous les sacrifices, le pasouk emploie au moins le terme de Kohen, nous savons déjà que le Kohen ne peut employer que sa main droite. Pourquoi donc doit-on apprendre du korban khatat? L'agma répond, Kedin Asba, ce passage a été enseigné inutilement. C'est-à-dire le fait que nous apprenons du korban khatat que le Kohen ne peut effectuer l'offrande des sacrifices qu'en employant sa main droite a été enseigné dans cette braïta inutilement. Car en fait, nous l'apprenons d'ailleurs. Donc finalement, pour une raison ou une autre, ces trois restrictions, que le sacrifice ne peut provenir que du profane et ne peut être offert que pendant la journée et qu'avec la main droite du Kohen, ont été mises ensemble, mais seule cette restriction que le sacrifice ne peut provenir que du profane, ça prend du korban khatat. Veibaitema, et si tu veux, je te donnerai une autre réponse. Savarla ke Rabbi Shimon, Rabbi Akiva pense comme Rabbi Shimon, de Amar qui dit, Etzba lo baya keuna. Lorsque le pasouk emploie le terme de etzba, doigt, il n'est pas nécessaire d'ajouter le terme de Kohen pour nous apprendre qu'il s'agit de la main droite. Keuna baya etzba. Mais lorsque le pasouk emploie le terme de Kohen, il est nécessaire aussi que le pasouk enseigne ou utilise le terme de etzba, doigt, pour apprendre qu'il s'agit de la main droite. Autrement dit, selon Rabbi Shimon, si le pasouk n'emploie que le terme de Kohen, nous ne pouvons pas apprendre de ce terme que le Kohen ne peut utiliser que sa main droite. Selon lui donc, comme l'Agmara l'explique plus haut, Daf Kavdalet, il y a certains types de services qui peuvent s'effectuer même avec la main gauche. C'est pourquoi nous apprenons du Korban Khatat que les types de services généraux, comme l'aspersion du sang, doivent s'effectuer impérativement avec la main droite. Et cela parce que concernant le Korban Khatat, le pasouk a employé à la fois le terme de Kohen et le terme de Etzba. Nous apprenons de là donc que, notamment concernant l'aspersion du sang, il faut employer la main droite. Hacham, du Korban Hacham, nous apprenons la loi suivante. Ma Hacham, de même qu'en ce qui concerne le Korban Hacham, Atzmotav Mutarim, ses os sont permis, ils peuvent être utilisés par le Kohen pour faire n'importe quoi. Et cela, nous l'apprenons du fait que le pasouk dit dans Vaikra Zayin concernant le Korban Hacham, lo yihyeh, il sera lui donc au Kohen. Cette expression est en plus pour enseigner que ce qui n'est pas destiné à être consommé, donc les os du sacrifice, appartiendront au Kohen. Ils n'ont donc aucune restriction concernant le temps d'utilisation et le Kohen donc pourra les utiliser même pour confectionner des ustensiles. Afkol, ainsi en ce qui concerne tous les sacrifices, Atzmotav Mutarim, ces eaux sont permises à l'utilisation. Il sera donc même permis d'utiliser les eaux du Korbanola, et ce à la condition d'avoir été retiré du sacrifice avant l'aspersion du sang, comme l'Agmara l'a expliqué plus haut, Daf Pevav. L'Agmara va revenir brièvement maintenant à la loi que nous avons vue au début du chapitre, selon laquelle il faut laver l'habit sur lequel le sang d'un Korban Khatat a giclé. En l'Agmara dit Amar Rabba, Pshitali, la chose suivante m'est évidente.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Tzadechet Amud Bet. Dam Khatat Lemata, si le sang du Korban Khatat est en dessous, c'est-à-dire c'est lui qui a giclé en premier sur l'habit, Vedam Ola Lemala, puis le sang d'un Korban Ola se trouve au-dessus de lui, c'est-à-dire il a giclé sur cette même tâche, Taoun Kibous. Cette tâche nécessite un lavage, car finalement, cet habit a absorbé le sang d'un Korban Khatat. Ba'er Rava, cependant, Rava a posé la question suivante. Dam Ola Lemata, dans le cas où le sang d'un Korban Ola est en dessous, c'est-à-dire c'est lui qui a giclé en premier sur l'habit, Vedam Khatat Lemala, puis le sang du Korban Khatat est au-dessus, c'est-à-dire le sang du Korban Khatat a giclé sur cette tâche existante. Mahou, qu'en est-il? Mishum no Geahu, est-ce que le lavage est nécessaire car le sang touche l'habit? Vehanogea, voici que le sang du Korban Khatat touche l'habit, donc cette tâche nécessite un lavage. Odilma, ou bien Mishum Baluahu, c'est parce que le sang est absorbé dans l'habit. Vehalobala, et ici, puisqu'il y avait déjà une tâche existante, le sang du Korban Khatat ne s'est pas absorbé dans l'habit. En tout cas, il ne s'est pas absorbé tout seul. Donc, il est possible qu'il ne sera pas nécessaire de laver cette tâche. Hadar Pashta, ensuite, Rava a lui-même tranché cette question de Enkitounin Kibous. Dans ce cas où le sang du Korban Khatat a giclé sur une tâche existante, cette tâche ne nécessitera pas de lavage. Amar Rava. Rava dit la chose suivante. Pshitali, cette chose m'est évidente. Ici, il s'agit de la purification d'un habit dans le bain rituel. Dam Albigdo, s'il y a du sang sur son habit Chotzetz, cette tache de sang forme écran, puisque finalement cette tache empêche l'eau d'être en contact avec l'habit. Donc il faudra enlever cette tache pour pouvoir purifier cet habit dans le bain rituel. Vim Tabahu, mais s'il s'agit d'un boucher, donc d'un habit d'un boucher, qui n'est pas gêné par les taches de sang, et no chotzetz, cette tache de sang ne forme pas écran entre l'habit et l'eau du bain rituel, donc elle est annulée vis-à-vis de l'habit, et il sera possible de purifier cet habit dans le bain rituel, même sans laver cette tache. Reva Valbigdo, une tache de graisse sur l'habit, Chotzetz, forme écran entre l'habit et l'eau du bain rituel. Vim Mocher Vavu, mais s'il s'agit d'un vendeur de graisse ou de cire, qui n'est pas gêné par les taches de graisse sur son habit, et no Chotzetz, cette tache ne fait pas écran entre l'habit et l'eau du bain rituel, il sera donc possible de le purifier même sans enlever cette tâche. Ba'e Rava, mais Rava a posé la question suivante. Dam Urvav Albigdo, s'il y a sur l'habit à la fois une tache de sang et une tache de graisse, Mahou, qu'en est-il? Alors la Gemara s'étonne. Im Tabahu, s'il s'agit d'un boucher, donc de l'habit appartenant à un boucher, qui lui n'est pas gêné par la tache de sang, Tipukle Mishum Revav, pourquoi se pose-t-il cette question concernant le cas où il y a deux taches, une de sang et l'autre de graisse? Même si elle a simplement une tache de graisse, de toute façon, puisque ce boucher est censé être gêné par la tache de graisse sur son habit, cette tache formerait écran entre l'habit et l'eau du bain rituel, et il faudra enlever cette tache pour pouvoir purifier l'habit. Vi mocher vavu, et s'il s'agit d'un vendeur de graisse, pourquoi pose-t-on cette question concernant le cas où il y a deux taches sur l'habit, une de sang et l'autre de graisse? Tipukli mishum dam, même si elle a seulement une seule tache, la tache de sang, qui est censée gêner le vendeur de graisse, cette tache devrait faire écran entre l'habit et l'eau du bain rituel. Il faudra donc enlever cette tache pour pouvoir purifier l'habit. L'agma répond, l'autre Rava n'a eu besoin de poser cette question uniquement pour le cas de David Haveha,
où il s'agit d'une personne qui fait les deux, c'est-à-dire à la fois il est boucher et il vend de la graisse ou de la cire. Donc dans le cas où il y a deux taches sur l'habit, une de sang et l'autre de graisse, la question se pose, car d'une part, nous pourrions dire « Achadal au kapid », il n'est pas gêné par une tache « Atarte kapid », mais il sera gêné par deux taches, donc une de sang et l'autre de graisse. Donc il faudra qu'il enlève au moins une de ces taches pour pouvoir purifier l'habit dans le bain rituel, « Odilma », ou bien, puisqu'il fait les deux travaux « Atarte namil au kapid », même sur ces deux types de tâches, il n'est pas gêné. Donc, il pourra purifier cet habit, même sans enlever ses tâches. L'Agmara conclut, « Tekou, c'est une question qui reste sans réponse. Eliyahu Hanavi répondra. » Hadran alach dam khatat. Nous avons fini ici l'étude du 11e perek de Masechet Zvachim.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.